Radio Spirale.
Intitulé « Éducation à la sexualité, théâtre, école et Internet », la 64e entrée libre de jeu s'est déroulée le 16 août 2016 à Espace Libre à l'occasion du festival Zone OMA. Animée par Sarah Dion, membre de la rédaction de jeu, la discussion réunissait Sarah Berthiaume, auteure et comédienne, Florence Bonneau, sexologue et éducatrice, Catherine Chabot, auteure et comédienne, et Myriam Daguzan-Bernier, coordonnatrice de contenu numérique, gestionnaire de communauté et étudiante en sexologie.
Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à la 64e entrée libre de la revue Jeu. Ce soir, nous allons discuter d'éducation à la sexualité. En lien avec divers médias et discours populaires. J'ai en ma compagnie, je les remercie d'avance de leur participation, Sarah Berthiaume, auteure dramatique et comédienne. Ensuite, Florence Bonneau, qui est éducatrice et sexologue. Catherine Chabot, Catherine Chabot, auteure dramatique et comédienne également, ainsi que Myriam Daguzan-Bernier, qui est étudiante en sexologie et journaliste indépendante. J'ai demandé à chacune d'entre elles de préparer une intervention sur leur métier en lien avec la sexualité, parce qu'elles se sont toutes frottées à ce sujet à de nombreuses reprises, soit par... Oh, je m'excuse, frottées. Eh oui, bon, voilà. Ça commence. Donc, je vais les laisser vous présenter de quelle façon elles ont abordé ce sujet-là. Une sexologue, c'est peut-être un peu plus évident, mais Florence a une prise particulière sur le sujet. Donc, je vais passer la parole à Sarah Berthiaume.
Alors, bonsoir. Moi, ce soir, j'ai décidé de vous parler. En fait, je parle de j'ai de la sexualité dans mes pièces. Ben, dans la vie, mais dans la plupart de mes pièces aussi. Mais j'ai décidé surtout d'aborder une pièce pour ados que j'ai écrite en 2012 qui s'appelle Pandore et qui est vraiment spécifiquement sur ce sujet-là. Fait que je vais comme vous raconter la genèse de ma pièce et la réception et tout ce que j'ai vécu à travers ce processus. Alors, Pandore, c'est une pièce qui était une commande d'une compagnie de théâtre anglophone qui s'appelle You Theater, qui est une compagnie qui a plus que 40 ans d'existence. Et le directeur artistique m'a approché en disant « Voudrais-tu écrire une pièce pour ados sur la cyberpornographie? » Fait que j'ai fait « ben oui, c'est super, jeune auteur, pas de problème, ça va être cool. » Fait que je me suis engagée là-dedans. La première étape qu'on a vécue pour s'approprier le sujet, c'est d'aller rencontrer des groupes de jeunes dans les écoles pour avoir un petit peu du feedback avec eux. On était deux groupes d'auteurs, donc moi, je rencontrais une gang d'étudiantes, de filles, et puis il y avait des auteurs gars qui rencontraient une gang de gars pour que les jeunes soient plus à l'aise de discuter avec nous. Et puis, je suis ressortie de ces rencontres-là avec toutes sortes de constats, peut-être pas étonnants, mais... des constats, bref. Les constats avec les gars, c'est que d'abord qu'il y avait beaucoup de facilité à parler de la pornographie. Ils utilisaient ça souvent comme une manière de... on dirait que c'était comme un rite initiatique. Ils étaient tous très fiers de dire qu'ils allaient sur voir la porn, puis ils étaient capables d'en parler entre eux, puis ils connaissaient des actrices, puis tu sais, bon, tout ça. Fait qu'il y avait comme une espèce de facilité à en parler. Et quand les gars leur ont demandé de parler de ces actrices-là, justement, de dire ce que, tu sais, c'est des filles avec qui vous sortiriez, et là, évidemment, c'était comme jamais de la vie, ces filles-là, yark, c'est des salopes, machin. Fait que, bon, ça, c'est le premier constat qui m'a un petit peu frappée. Et quand moi, je suis allée voir du côté des filles, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, il y avait comme un gros tabou. Les filles, la porn, c'était, il n'y en avait pas une qui est allée voir ça, c'était des problèmes de gars, ça ne les intéressait pas, ils trouvaient ça dégueu. Puis tu sais, il y avait comme moins d'essayer de rentrer dans le sujet avec eux autres, c'était vraiment comme, vraiment très loin, puis il y avait comme quelque chose d'un peu honteux associé à ça, ou en tout cas, c'était vraiment un peu pas de leurs affaires. Puis même quand j'essayais d'aborder, tu sais, les thèmes un peu plus de la curiosité puis du désir, tu sais, ça vous intéresse pas, puis tout, c'était vraiment comme un gros non en néon. Fait que je suis sortie de ces rencontres-là avec un peu le constat que, tu sais, je me disais, aïe, 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 j'avais l'impression que c'était encore les filles qui mangeaient un peu la claque dans ce constat-là, parce que, d'une part, je me disais, elles sont encore pognées avec, tu sais, la dualité de la maman, de la putain, là, tu sais, comme si le rapport à la sexualité, c'est un rapport de honte ou de tabou, ou t'es une salope si tu fais ça. Fait que je me suis dit que j'allais aborder la pièce en passant par... un personnage féminin qui avait une dépendance, qui développait une dépendance à la pornographie. D'une part parce que ben, ça me permettait de comme briser ce tabou-là, de présenter un personnage qui était aux prises avec ça en me disant, bon, si jamais il y a une fille quelque part qui a ça, ben, elle va avoir comme un référent. Si les gars en ont, ben, ils vont pouvoir s'identifier à ce personnage-là aussi. Puis aussi parce que j'avais envie de comme... essayer de redonner un peu ces lettres de noblesse à la notion de curiosité. Puis c'est pour ça que je suis allée vers le mythe de Pandore. Tu sais, Pandore, si je résume un peu, mais tout le monde sait c'est quoi, mais tu sais, c'est vraiment comme l'équivalent grec de Ève, là, tu sais, du péché originel. C'est comme les gars vivent, c'est le tout entre eux, c'est comme parmi les boys, tous les hommes. Et là, tout à coup, les dieux font, on va leur jouer un vilain tour. Fait qu'on va leur envoyer une super belle fille avec une boîte. Puis on va lui dire, ouvre surtout pas la boîte. Puis là, évidemment, elle est curieuse, ce qui peut paraître comme une qualité, mais non, c'est un défaut parce qu'elle ouvre la boîte et là, tous les maux du monde sont dans la boîte et se répandent sur la terre parce que la fille a été curieuse puis elle a ouvert la boîte. Puis là, je me disais, mais quel incroyable mythe terrible qui dit que la curiosité, c'est quelque chose de mal, tu sais, surtout par rapport à la sexualité, tu sais, fait que je trouvais l'analogie avec les ados bonne, tu sais, genre, c'est bien d'être curieux, mais là, on te donne un ordinateur, il y a plein de sexualité là-dedans, tu sais, c'est normal d'être curieux avec la sexualité quand t'es un ado, mais vas-y pas, puis si tu y vas, ah, ben là, c'est ça, c'est de ta faute, tu sais, fait que j'essayais de traiter cette affaire-là de culpabilité, de honte, puis de curiosité par rapport aux ados. Fait que j'écris une pièce là-dessus qui partait du mythe de Pandore, puis qui allait un peu dans, comment dire, j'avais un... C'était un peu un panier de crabes, ce contrat-là, parce que je m'adressais à des mineurs. Tu sais, j'étais dans des écoles secondaires et je parlais de sexualité et de pornographie, qui est quelque chose de 18 ans et plus. Fait que déjà, là, il y avait comme une espèce de contradiction qui faisait que fallait que j'en parle, mais sans vraiment en parler. Puis je pouvais pas y aller de manière frontale parce que je voulais pas... En fait, je ne voulais pas, d'une part, faire comme si c'est normal, tout le monde est allé, on sait de quoi on parle, tout le monde. Et d'autre part, je ne voulais pas dire, vous êtes toutes jamais allées, vous ne savez pas de quoi on parle. Fait que j'étais un peu comme dans une espèce d'entre-deux où il fallait que j'en parle. Mais j'ai beaucoup utilisé la métaphore pour m'en sortir avec ça. Puis théâtralement, c'était plus intéressant pour moi aussi parce que ça... De sortir de ce réalisme-là, ça m'empêchait d'aller dans des trucs de... De bureau de l'infirmière à l'école puis de psychologue, tu sais, j'avais pas envie d'aller de ça. Fait que j'ai comme trouvé des métaphores. Et la pièce a été drôlement reçue à cause de ça. Parce que, en fait, il faut que j'explique aussi que je pense que la culture théâtrale anglophone, Là, peut-être que je me mets un pied dans la bouche, là, s'il y a des anglophones qui veulent me reprendre dans la salle, c'est vraiment correct, mais je pense qu'il y a une tradition du théâtre qui est quelque chose d'un petit peu plus pédagogique, ou en tout cas qui font plus du théâtre un peu d'intervention, c'est-à-dire qu'on prend une problématique sociale, puis la pièce de théâtre va servir à la traiter, puis à donner des outils pour solutionner ça. Et c'est quand même parlant le fait que la plupart des compagnies de théâtre anglophone, les pièces vont jouer à l'école, dans le gymnase. C'est-à-dire que, tu sais, les élèves vont manquer le cours de français pour aller voir la pièce qui va donner des clés pour répondre à un problème. Je pense que, ben, dans la culture francophone, souvent, c'est différent. Les pièces, souvent, sont un petit peu moins orientées vers des problématiques. Les auteurs sont un petit peu plus libres d'aller dans toutes les directions. Tu sais, je pense au Clou qui va vraiment, là, tu sais, des affaires complètement flyées de David Paquet, des affaires un peu pétées. Puis, les étudiants se déplacent dans le théâtre. Puis ça change quand même la réception de l'œuvre. Fait que moi, je suis arrivée avec ma pièce traduite en anglais dans les écoles secondaires. Et puis, est-ce que c'était trop... Ça va. Fait que je suis arrivée avec ma pièce en anglais dans les écoles secondaires. Puis ma pièce, elle donnait vraiment pas de réponse. Vraiment pas. Elle pointait un problème. C'est comme si Puis c'est comme ça, je suis en train d'en écrire une autre pièce pour ado en ce moment. Puis c'est ça la position que j'aime avoir. Je me disais, si je suis la vieille, la ma tante de 30 ans qui dit c'est mal, fais pas ça, attention, vas-y pas. Je me disais, c'est plate, personne va m'écouter. Puis tu sais, ça n'a pas d'intérêt de recevoir une œuvre qui dit ça. Tandis que si je me mets avec eux autres puis que je fais, hey, on a comme un gros problème. Tu sais, ça marche. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. C'est pas juste. Tu sais, puis je ne sais pas plus quoi faire que vous. Fait que c'est un peu ça ma position. Et puis, dans les écoles, ça a plus ou moins bien passé parce que pas auprès des étudiants. Les étudiants étaient assez réceptifs, puis ça marchait assez bien. C'est sûr que ça brasse, tu sais. Ça parle de cul, c'est pour ados, c'est comme un peu, tu sais, il y avait des bouts où, tu sais, c'est un peu le bordel. Mais, tu sais, ça répondait bien. Mais les profs aimaient pas vraiment ça parce qu'à la fin, il y avait l'impression que je les laissais, je pense, avec une grosse patate chaude. Tu sais, j'avais comme posé des questions en donnant pas les clés pour répondre. Et je vais juste finir avec l'anecdote pour moi la plus parlante de cette pièce-là. La première fois que j'ai été la voir, je pense que j'étais dans une école à Montréal-Nord. En anglais, la représentation a eu lieu, ça s'était bien passé, j'étais contente. Les élèves étaient un peu énervés, mais tu sais, je trouvais que ça avait bien marché. Et là, tout de suite, à la fin de la pièce, il y a eu un policier qui était comme le policier de l'école qui est venu sur scène et qui a comme résumé ma pièce. Il a dit, alors, vous comprenez bien sûr que ce que l'auteur veut dire, c'est que c'est mal. Puis là, j'ai fait comme, non! C'est comme 2 ans de travail à essayer de raffiner mon petit discours puis essayer d'avoir des nuances puis de poser les bonnes questions. Et là, lui, il venait là, t'sais, avec sa grosse autorité de policier, tout détruire puis dire juste « c'est mal, c'est 18 ans et plus, c'est illégal, vous y allez pas parce que… » t'sais. Fait que, bon, bref, ça a été une des raisons de la pièce. Puis le pire, c'est que t'sais, j'étais dans la salle. T'sais, il pouvait m'a posé la question de ce qu'elle voulait dire, ma pièce, t'sais, j'étais là. Mais non, t'sais, la grosse autorité qui… En tout cas, fait que ça a été une réception. Ceci dit, la pièce a été reprise cette année à Toronto, dans un théâtre, et la réception était vraiment, vraiment super. Fait que je pense en même temps, en tout cas, mon constat, c'est qu'il y a eu comme une évolution. Je ne sais pas si en 4 ans, il s'est passé quelque chose, les gens sont devenus plus sensibles ou si c'est le contexte. Mais bref, la pièce, là, elle a très bien vécu cette année, puis j'ai eu plein de bons commentaires. Mais ça a été une super expérience d'aborder ces questions-là pour les adolescents. Voilà.
Merci beaucoup, Sarah. Je vais donc passer la parole à Florence Bonneau, qui est éducatrice et sexologue. Je vais la laisser se présenter et présenter ses projets, mais je lui ai demandé de nous parler du projet pilote qui est en cours dans les écoles, parce qu'il y a un projet d'éducation à la sexualité qui va remplacer les cours qui étaient inexistants, puis avant ça, qui étaient existants sous de différentes formes. Donc, elle va nous faire un petit historique, puis une vulgarisation. Et puis, je lui ai demandé de prendre position, en quelque sorte, là, de nous souligner peut-être les lacunes et les bons côtés de ce projet-là.
Bien, bonjour tout le monde. Premièrement, je suis super contente d'être ici parce que c'est rare que je vienne parler de sexualité puis d'éducation à la sexualité dans ce genre d'événement puis de mettre ça avec du théâtre. Puis en tout cas, c'est vraiment nouveau pour moi. Je sens que je vais beaucoup en apprendre ce soir. Pour un petit historique, en fait, moi, j'ai commencé mes études universitaires en psychologie. Donc, j'ai eu un bac en psycho, suite à quoi j'ai fait de la recherche auprès des personnes non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Donc, j'ai travaillé dans un institut en santé mentale pendant 1 an et demi, suite à quoi j'ai démarré mes études en sexologie à l'UQAM. Pour information, l'UQAM est la seule place en Amérique du Nord à avoir un programme complet de bac au doctorat en sexologie. Donc, on est quand même fiers d'avoir ça ici. Pendant mes études en sexo, j'ai été engagée par les Centres jeunesse de Montréal, en fait. Je suis devenue éducatrice il y a de ça environ 3 ans et demi. Donc, j'ai travaillé autant avec des enfants qu'avec des adolescents, des garçons, des filles, des mères avec leurs poupons, donc tous les cas qui étaient retenus par le DPJ. Ça a été très confrontant pour moi, surtout sur le plan de la sexualité puis de comment c'était géré auprès des jeunes dans des institutions de fonction publique, en fait. Et en fait, quand j'ai venu le temps de faire mes stages en 3e année de baccalauréat de sexo, je me suis dit, pas sûre que j'ai le goût de faire ça encore avec des jeunes, puis de me retrouver encore devant ces espèces de tabous-là, restrictions-là, ce cadrage, ce contrôle social-là, ça me mettait profondément mal à l'aise. Mais ça a donné que j'ai fait mon stage dans une école secondaire, finalement. par un concours de circonstances, finalement, j'ai trippé parce que je me suis amusée à aller briser des murs et à... je me suis toujours amusée à dire que j'avais déviergé le terrain de ce côté-là. C'était vraiment un collège qui n'avait jamais eu de sexologue entre les murs. Et puis, je me suis retrouvée, comme toi, devant des professeurs un peu frileux, devant des directeurs un peu frileux, devant des parents un peu frileux. Et ça m'a juste donné le goût davantage de relever le défi et d'aller un petit peu plus loin chaque fois. J'en suis ressortie vraiment grandie. J'ai obtenu par la suite mon titre de sexologue éducatrice. Pour la petite nuance, en fait, les sexologues ont plusieurs titres différents. Il y a les sexologues éducateurs qui ont un baccalauréat, qui travaillent à titre informatif pour faire de la relation d'aide, pour donner de l'information, pour faire des suivis qui ne sont pas des suivis psychothérapeutiques ou cliniques. Pour faire cela, il faut une maîtrise clinique, en fait. Donc, il faut faire un 2 ans de plus ou 3 si on le fait à temps partiel pour devenir clinicien ou s'en aller en recherche aussi avec une maîtrise. Donc, j'ai obtenu mon titre de sexologue et j'avais tellement été inspirée par mon expérience au scolaire que j'ai décidé de démarrer une petite entreprise qui s'appelle Option Sexologie, qui est la première agence de services en éducation à la sexualité au Québec. J'ai fondé ça avec une de mes collègues de sexo, justement, parce que d'après l'expérience que j'avais eue et en voyant le projet pilote qui s'en venait, on avait le goût de répondre à ce besoin-là, en fait, parce qu'on trouvait que non seulement la population n'était pas super informée par rapport à ce qui s'en venait avec le projet pilote, les écoles étaient dans le flou complet à savoir comment ça allait se passer, qui ils allaient peut-être devoir engager, si de faire venir des intervenants, où allait-il aller les chercher? Est-ce que l'infirmière de l'école allait se retrouver complètement débordée dans son horaire? Est-ce que les professeurs de maths allaient devoir commencer à parler de sexualité dans leurs cours? J'avais reçu des tonnes et des tonnes de questions. Et il se trouvait que même les sexologues étaient complètement dans le champ par rapport à ce projet. Là, je vais quand même faire un bémol. Ce que j'amène ce soir, je vais prendre un peu de toutes sortes d'opinions que j'ai reçues. Je ne vais pas me prononcer au nom de tous les sexologues. Je ne vais pas me prononcer au nom de toutes les écoles du Québec. Je ne vais pas me prononcer au nom du ministère de l'Éducation non plus. C'est un sujet qui est super touché, vous vous en doutez. Et donc, je ne veux pas qu'on prenne ma parole hors contexte puis qu'on dise, bon, ben, le ministère veut que. Je vais vous amener des propos que j'ai reçus puis des questionnements qui ont été entendus puis des inquiétudes aussi de la part des parents, des élèves, des profs, des sexologues.
Juste préciser, il y a des sexologues de l'ordre des sexologues qui ont été consultés, par contre, pour ce projet-là.
En fait, de ce que j'ai entendu, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur avait demandé au département de sexologie carrément de produire un rapport, de leur donner des statistiques, des données sur ce qui avait été fait en éducation à la sexualité, de comment ça avait eu un impact sur l'évolution des comportements sexuels au Québec, de la santé publique, des choses comme ça. Donc oui, il y a eu des sexologues qui ont été consultés. Ce qui est venu chicoter les sexologues, malheureusement, c'est que quand on a commencé à parler du projet pilote et que les médias s'en sont mêlés, parce qu'ils s'en sont mêlés beaucoup, on faisait très peu mention de l'apport que les sexologues allaient pouvoir avoir dans le cadre du projet pilote. C'est-à-dire que même sur le site web officiel du gouvernement, on faisait mention de comment l'infirmière allait pouvoir en parler, le psychoéducateur, le psychologue de l'école, les intervenants communautaires... l'animateur spirituel de l'école, mais il n'y avait pas le mot sexologue nulle part. Et donc, on était un peu... je pense que je peux le dire, on était un peu offusqués. En fait, il y a même une sexologue assez connue dans le domaine de l'éducation à la sexualité qui s'appelle Jocelyne Robert, qui a répondu par une espèce de lettre ouverte au ministre de l'Éducation qui avait mentionné « Oui, mais on a... » Encore là, je vais rephraser, je ne sais pas si c'était exactement ces mots, mais il disait « Oui, mais on n'a pas non plus besoin que ce soit des experts qui viennent parler de sexualité. » Donc, ça voulait dire « On va former le monde dans les écoles, on va leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent aborder comme sujet, mais ça peut être n'importe quel prof, ça peut être n'importe quel intervenant présent, ça peut être l'organisme communautaire du choix de l'école en fonction des budgets, puis tout ça, puis, ce qui est bien correct aussi. » Mais de là à dire que ça prenait pas des experts pour parler de sexualité à des adolescents puis à des élèves du primaire aussi et de la maternelle, on trouvait ça un petit peu tiré par les cheveux. Donc, il y a eu beaucoup de débats et de réactions ici et là. Surtout qu'on se sentait pas informé comme sexologue, en fait, de comment les choses se passaient pendant le projet pilote, parce que au cas où vous ne le saviez pas, c'était en cours pendant toute l'année scolaire en ce moment. La deuxième année du projet pilote débute en septembre. Et donc, le but serait de rendre les apprentissages obligatoires à partir de l'année scolaire 2017-2018. Et donc, comme on n'avait pas d'informations, finalement, l'OPSQ a demandé au ministère de l'Éducation de venir nous faire une séance d'information qui a eu lieu à l'UQAM, où est-ce que des sexologues se sont présentés pour qu'on puisse poser nos questions, pour qu'on puisse demander pourquoi les sexologues n'étaient pas interpellés, et puis c'était quoi le feedback qui allait être donné, comment ça fonctionnait, c'était qui les écoles qui participaient à ça, à qui on allait pouvoir offrir nos services, etc., etc. Puis si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, ça va me faire plaisir d'y répondre tout à l'heure. Puis pour le restant de ma présentation, en fait, au travers de la petite entreprise dont je vous parlais, on avait aussi décidé il y a 2 ans de mettre sur pied un blog d'éducation à la sexualité qui était complètement gratuit, confidentiel, où est-ce que les internautes pouvaient nous écrire des questions. On était 3 étudiantes en sexologie. On était tannées de voir les gens aller sur des forums pour... parler de leurs addictions ou de leur fétichisme ou de leurs problèmes de dysfonction érectile ou peu importe, et se faire littéralement niaiser sur les réseaux sociaux ou sur des forums, recevoir de l'information qui était de la désinformation. Et on s'est dit, il faut qu'on offre un service qui est gratuit, qui est vraiment confidentiel, où est-ce que les gens ne vont pas avoir peur de se livrer. Et on permettait, en republiant les questions et les réponses, de donner de l'information aux gens, en fait, où est-ce que... Moi, j'en ai plein du monde qui sont venus me voir, même du monde que je connaissais pas, qui me disaient, tu sais, moi, je suis à la job, c'est ma pause, puis je regarde un peu c'est quoi les questions qui sont sorties dans les dernières semaines, parce que même si moi, j'y ai pas pensé, quelqu'un d'autre y a pensé, et c'est intéressant, et j'en apprends sur la sexualité de tout un chacun. Et donc, on publiait sur ce site qui s'appelle... Les Indiscrètes, donc www.indiscrètes.com au pluriel. On publiait des articles rédigés par nous-mêmes ou par des collaborateurs. On publiait les questions avec les réponses. On publiait parfois des sondages, justement. On demandait sur les médias sociaux, vous est-il déjà arrivé de... Puis on voyait un peu, ça gardait le côté un peu croustillant. Puis en fait, j'aime bien l'idée d'aller chercher des médias un peu grand public puis peut-être un petit peu plus accessibles qui ont peut-être de l'air en apparence de la revue Châtelaine que tu as le goût de lire sur le bord de la piscine, mais qui va aller te passer un contenu un petit peu plus scientifique, un petit peu plus backé par des informations qui sont réellement valides et qui sont tolérantes aussi, parce que oui, sur certains sites web, tu peux voir toutes sortes de propos sexistes, homophobes, des conseils sur comment faire venir une fille en 5 étapes faciles avec un tutorial sur YouTube, là. Donc, en tout cas, c'est ce genre de désinformation-là qu'on essayait de bypasser d'une certaine façon. Donc, voilà.
Bien, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions donc sur le projet pilote ou sur l'entreprise ou sur des détails de cette... parce que c'est quand même un gros projet, là. Puis, en gros, il y a des acquis... Il n'y a pas de vérification des acquis. En tout cas, c'est de la maternelle jusqu'au secondaire. Puis, comme tu disais, ce n'est pas forcément des intervenants en sexualité, en éducation à la sexualité. Puis... Il n'y a rien pour vérifier aussi comment s'est produit le transfert. Dans le fond, on pourrait y revenir, mais donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir les détails de ce programme-là, je sais que Florence le connaît bien. Je vais passer la parole à Catherine Chabot, qui est auteure dramatique et comédienne également.
Merci. En fait, moi, j'écris avec une gang de filles. On a écrit ensemble. On va faire partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Chienne. On a écrit la pièce de théâtre qui a joué ici entre ces murs, qui s'appelle Table rase. On a fait ça en novembre dernier. Puis, en fait, dans ce spectacle-là, en fait, on a travaillé 2 ans là-dessus. Deux ans, à raison d'une fois par semaine, les 6 filles, on se réunissait chaque semaine pour discuter. Au début, la pièce s'appelait Discussion de filles, parce que c'est de ça qu'on jasait d'affaires de filles. Puis, Brigitte Poupard aussi s'est joint à nous dans le processus et tout. Et donc, avec ça, rapidement, en fait, notre désir à la base, c'était pas de parler de sexualité. La thématique était pas... en fait, le spectacle allait pas être sur une thématique précise qui était la sexualité. La sexualité est venue à nous, en fait, parce que à travers les discussions de filles qu'on avait, moi, je les enregistrais, on se posait des questions. Puis à chaque fois qu'on se réunissait autour de la table, on finissait par parler de cul, tout le temps. On parlait de nos anecdotes, puis tout ça, mais c'était pas nécessairement en fait, ces anecdotes-là, en fait, on se révélait des choses qu'on n'avait jamais dit. Puis c'est vraiment spécial, à travers ces discussions-là, on se rendait compte qu'il y avait énormément de tabous, il y avait énormément d'anxiété par rapport à certaines pratiques, il y avait énormément de... Il y avait beaucoup de mystères, puis tout ça, parce que, tu sais, notre génération est une génération libérée, on est une génération apparemment complètement débridée, puis on va tout voir la pornographie, puis tout ça, puis bon, on connaît tous nos organes du bout des doigts. Mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, en tout cas, pour nous six, en tout cas, il y a des choses qui se sont dites. C'est super surprenant de faire tabarouette, tu sais. On est en 2016, on est des jeunes femmes dans la mi-vingtaine, mais que se passe-t-il? On n'est pas là. On n'est pas où on pense qu'on devrait être. C'est devenu important pour nous autres, dans Table Rase, de parler de ça, parce que ça faisait partie prenante des discussions qu'on avait ensemble. Donc, c'est sûr que dans le spectacle, il y a différents enjeux, différentes considérations. On ne parle pas seulement de sexualité, mais la table est mise avec ça, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de chacun de nous, mais ça nous caractérise aussi. Ça caractérise notre façon dont on vit la sexualité, notre sexualité. Ça dit des choses sur nous, donc ça dit des choses sur les personnages aussi. C'est pas gratuit, c'est pas pour provoquer, c'est pas... Ça dit des choses, ça révèle... La sexualité est vraiment un révélateur. Fait que c'est pour ça qu'on se disait, Colin, c'est riche, tu sais. Il y a des affaires qui sortent, puis on est comme... On était vraiment subjugués, parce que les filles entre nous autres, on était comme... Il y en avait qui étaient comme gênées, puis disaient, j'ai jamais révélé ça à personne, puis... Mais mon Dieu, mais toi aussi! Puis, tu sais, c'était vraiment surprenant de voir à quel point on avait du chemin à faire. Donc, dans le spectacle, ce qu'on a présenté, c'est le processus. À chaque soir, finalement, on réembarquait dans cette espèce de processus de révélation-là, chaque soir. C'est pour ça, je sais pas, que ça peut être touché certaines personnes, ce spectacle-là, peut-être parce que, justement, on a passé à travers ce processus-là aussi. Fait que les personnages se mettent à nu sur scène, mais c'est les filles, c'est les comédiennes aussi qui revivaient le processus de mise en langage, de mise en récit de leur expérience et tout ça. Donc, pourquoi on... C'est ça, je vais essayer de me poser la question, pourquoi on parle de ça? Mais parce que, bien simplement, ça fait partie de la vie. Puis, ça ne devrait pas être tabou, ça ne devrait pas être caché, ça ne devrait pas être demeurer un mystère. Et dans Le champ amoureux, qui est une autre pièce que j'ai écrite, que j'ai jouée à Zonoma, là-dedans, en fait, c'est un couple qui, au sortir de la douche, s'engueule, se chicane sur l'infidélité du gars. Fait que il chicane, mais il sort de la douche. Fait que tu sors de la douche, t'es tout nu. Puis là, ben, tu trouves ton pyjama. Puis bon, c'est de rendre la réalité comme elle est, le quotidien comme il est, de rendre ce que c'est vraiment dans une chambre à coucher. Puis de quoi on jase autour de la table, on jase de cul dans une salle, dans l'intimité d'une chambre à coucher. Ben, on est couché de même, on a un petit sein qui pend, puis on est comme, on n'est pas, c'est pas, il y a rien qui est magnifié, il y a rien qui dans le propos ou dans la façon de le montrer, parce que là, dans Le champ amoureux, c'est pas au niveau du langage, mais c'est plutôt au niveau de la monstration de la sexualité, où il n'y a pas de relation sexuelle complète, là, on s'entend que ce ne sera pas une pièce de théâtre pornographique, mais bien, les personnages vont quand même essayer d'entrer en contact l'un avec l'autre. Il va y avoir une tentative de rapprochement, puis ça ne marchera jamais. Donc, c'est pour le bien du texte, mais bon, il n'y a pas d'éjaculation ou quoi que ce soit. Mais donc, on se touche, ça ne marche pas, on essaye d'entrer en contact l'un avec l'autre, puis ça ne fonctionne pas. Puis, ben c'est ça, ils vivent leur sexualité sur scène comme un couple banalement qui chicane, ça marche plus, esti, mais ils essayent de rentrer en contact sexuellement, ça fonctionne pas. Fait que c'est pour montrer à quel point, tu sais, ça fait partie de la vie. Puis, en fait, c'est ça, c'est banalement ramener le quotidien bien trop banal sur scène parce que la vie, le quotidien, ben ça implique la sexualité, ça implique de manger, ça implique de prendre sa douche, puis ça implique de se vêtir, et puis des hémorroïdes également. Oui, moi, je ne souffre pas de ça, là, mais ça risquerait de venir après un accouchement, peut-être. Ça arrive. Oui, exactement, parce que comment on en parle de façon complètement brute et crue. Il y a une façon d'en parler aussi qui est libératrice aussi, parce que on s'exprime. En fait, j'ai des amis de gars qui sont venus voir le show puis ils ont dit, hey, c'est vraiment un show de gars de filles. J'étais comme, OK, un show de gars de filles. Écoute, tu l'as vécu comme ça, parfait. Mais parce que, Colin, on parle de même, tu sais, on parle de même entre nous autres. Fait que ça surprenait les gens qu'on ait ce discours-là entre nous autres. Parce qu'on parle clairement de comment ça se passe, puis je pense qu'on va plus loin dans les détails que les gars. On s'explique, tu sais, l'odeur de la bave, on va loin dans ce qu'on se dit, là, tu sais. Fait que c'est très loin dans les détails. Ce qui fait que on en parle beaucoup, puis on en parle de façon très dense. Fait que... Les billets sont en vente! Ça reprend ici, d'ailleurs, à l'Espace Libre, là, du 10 au 21 janvier. Je l'ai dit. Mais c'est ça, fait qu'on en parle de façon assumée. Il n'y a rien de caché. C'est ça, le désir. C'est pas un désir de provoquer, c'est pas un désir d'entrer en... C'est un désir de montrer ce qu'on vit et comment ça se passe. Puis, ben, c'est ça, c'est spécial parce que dans le processus aussi, ben, il y a eu un processus d'émancipation qui a opéré avec les comédiennes elles-mêmes. Qui va peut-être se transférer à d'autres. Mais c'est ça qu'on espère aussi. C'est ça qu'on espère avec ce show-là, d'amener les filles à se poser des questions, à dire. Parce que les 6 filles qui sont autour de la table, probablement vous l'avez pas vu, il y en a certains d'entre vous qui ne l'ont sûrement pas vu. Les 6 filles sont autour de la table, puis. Il n'y a pas de point de vue moralisateur, dans le sens que toutes les filles vivent des choses différentes. Il y en a une qui défend l'amour, la fidélité. Il y en a une autre qui défend le polyamour. Il y en a une autre qui défend les relations sexuelles multiples, quotidiennes. Il y a personne qui... l'abstinence aussi, c'est ça, la sexualité, parce que ça se peut, tu sais. Donc, il y a comme toute cette... Chacune des filles apporte quelque chose aussi. C'est sûr que, tu sais, on ratisse pas énormément large dans la diversité, mais dans le milieu de notre, dans le domaine de notre connu, ben c'est un petit peu ça qui a été mis sur table. Et donc, chacune amène quelque chose. Puis, il n'y en a pas une qui a un ascendant sur une autre. Tous les points de vue sont valables. Puis, justement, le but là-dedans, c'est de suspendre le jugement moral, parce que trop souvent, dans les médias, il y a comme une espèce de chape moralisatrice sur la façon dont les gens vivent leur sexualité et tout ça. Fait qu'on essayait justement de montrer la multiplicité des points de vue. Puis dire, ben, toi, tu te reconnais là-dedans ou là-dedans ou dans quoi. Tu sais, comme il y a. Tu sais, essayons de créer une pièce où chacun va pouvoir trouver son compte, sa pratique favorite, voir est-ce que comment ça fonctionne, ça. Ou, non, c'est une blague. Fait que c'est ça. J'avais-tu d'autres choses à dire? Je ne sais plus. Ben oui, absolument. Alors, je passe la parole à Myriam. À Sarah. Excuse-moi.
Ben, merci beaucoup. Je passerai donc la parole à Myriam Daguzan-Bernier, étudiante en sexologie et journaliste indépendante, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour la fondatrice et la personne qui a fait rouler pendant de nombreuses années le blog « Ma mère était hipster ». Donc, je lui ai demandé... J'ai demandé à Myriam de nous trouver... parce que Myriam fait comme de la curatelle web. Moi, j'appelle ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement curieuse, qui a des antennes un peu partout, puis qui, en mélangeant son intérêt pour la culture, le journalisme, et pour la sexologie, et tout ce qui a trait à la société, l'être humain, ben je lui ai demandé de nous trouver le pendant... positif ou intéressant de la sexualité sur le web. Donc, je vais lui laisser la parole. Voilà. Un beau contrat. Donc, je vais lui laisser la parole.
Parfait. Merci. Je suis pas habituée de parler dans un micro. Ça se peut que j'ai la voix qui... Je suis habituée de travailler avec des gens qui sont derrière le micro, mais moi, je suis pas... En tout cas, bref, je travaille à Radio-Canada en ce moment, c'est pour ça. Oui, tout un contrat que Sarah m'a donné, et sans support visuel. Et sans... fait que, merci pour le beau défi. Non, mais c'est très chouette. Puis ceux et celles qui me suivent peut-être sur les réseaux sociaux ou qui ont suivi Ma mère était hipster avant, c'est ça, ils savent c'est nécessairement que je suis une grande curieuse et que je suis toujours en train de fouiller sur le web. Et je connais beaucoup de gens maintenant ici grâce à ça. Donc, j'ai fait une espèce de petit survol. J'en ai beaucoup trop. Okay? J'ai comme 4 pages. Mais on n'aura pas le temps de tout voir ça. Mais je les mettrai sur mon blog sexo-identité qui s'appelle Transfiguration. Je le mettrai sur l'événement après ce soir ou demain. OK. Oui, c'est ça. Parce que moi aussi, je vais y aller. Je ne le connaissais pas, ton blog. Avant de me lancer dans les liens, je vais vous demander en fait d'avoir de l'imagination parce que comme je n'ai pas de support visuel, je vais essayer de vous les décrire le mieux possible. Mais je me suis dit que mes choix, je commencerais par les expliquer. Moi, ce que j'observe sur le web, c'est toutes sortes de choses. Oui, je viens du milieu de la culture, mais la sexologie, pour moi, c'est étudier l'être humain de façon encore plus profonde. Pour moi, la sexualité, c'est complexe et c'est simple à la fois. C'est la base de tout, un peu, pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Puis, je suis contente que Florence soit là aussi parce qu'elle va pouvoir me reprendre si je dis des choses qui n'ont pas d'allure parce que je viens de commencer en sexo. Puis, je suis surtout ici en tant que curieuse avant tout. Donc, ne vous offusquez pas si je dis des choses. Puis, Florence me tapera sur les mains. Donc, mes choix, comment je les ai faits, c'est que je me suis rendue compte qu'entre autres, la force des réseaux sociaux était vraiment très, très grande. Il avait pris une place importante, ne serait-ce que pour l'utilisation, entre autres, de mots-clics qui ont circulé vraiment beaucoup partout. On pense à, je vais y aller un peu raide en commençant, mais agression non dénoncée, qui a posé beaucoup de questions sur la sexualité, sur la place de la femme aussi, et des choses comme, plus en France, je n'ai pas consenti. S'il y en a qui ont vu passer, c'était sur la maltraitance gynécologique. Ça pose aussi des questions sur la sexualité féminine. Ça ressort de plus en plus. Il y a aussi, je ne peux pas mettre de côté le fait qu'il y a une grande montée du féminisme que j'observe évidemment depuis plusieurs années, mais je dirais dans les 2-3 dernières années, c'est de plus en plus fulgurant, si je peux dire. Donc, il y a des collectifs qui se mettent ensemble pour en parler. Et en même temps que le féminisme aussi, on questionne beaucoup, entre autres, puis tout le monde en a parlé ici, la pornographie. Évidemment, il y a les porno studies qui ont émergé, mais qui viennent de mouvements féministes à la base. Mais je pense qu'en ce moment... La pornographie est vraiment beaucoup questionnée parce que on va donner une statistique que j'oublie ou je l'ai trouvée, mais je sais que c'est une vraie de vraie stat. Les jeunes en moyenne regardent leur premier porno à 11 ans. Donc, c'est la première école. Confirmé, OK, merci. Donc, à 11 ans, c'est souvent la première école qu'ils vont avoir pour apprendre comment fonctionne la sexualité. Puis, je veux dire, tout dépendamment du type de porno, mais de façon générale, la pornographie est quand même assez mainstream en général. C'est celle qui s'adresse à des hommes blancs hétérosexuels. Donc, ça ne répond pas à une pluralité des sexualités, si je peux dire. Donc, ça a teinté aussi mes recherches. Je dirais aussi un... je savais que je ferais une trop longue intro. les identités transgenres aussi qui émergent beaucoup. Très, très important. On se pose des questions là-dessus. On fait la place pour en parler. La sexualité, je ne veux pas mélanger non plus identité de genre et orientation sexuelle, qui sont deux choses complètement différentes, mais les identités transgenres prennent de plus en plus de place et on donne l'espace pour parler de ça parce que c'est une réalité et on ne peut pas le nier. Et il faut le montrer aussi, montrer qu'on peut, comment je pourrais dire, je veux pas mettre un pied dans la bouche, mais qu'on peut, on peut s'affirmer comme tel et ne pas... on peut s'affirmer comme tel, je vais le dire comme ça. Je vais régler ça de même. Donc, prolifération de la porno. Puis, je vais rajouter, je n'ai pas mis d'exemple de ce côté-là, mais il y a quelque chose qui vous sert déjà et qui va dans l'avenir prendre de plus en plus de place, et qui est la robotique et la télé dildonique. Vous avez tous un beau téléphone intelligent. La télé dildonique, c'est le sexe à distance. Il y en a peut-être parmi vous qui utilisez déjà des applications mobiles avec des sextoys qui permettent de, avec votre copain qui est, je ne sais pas, moi, en voyage, votre copain ou copine à Chicoutimi, vous êtes à Montréal et vous, tu sais, on parle le sextoy et on a une relation à distance. Donc, ça aussi, c'est des choses que j'observe beaucoup qui m'intéressent. Donc, porno studies, féminisme, ça ratisse large. Quand je dis que je suis curieuse, vous avez la preuve. Donc, j'étais allée un peu en... J'aurais pas le temps de tout voir, mais vous le verrez sur mon blog. J'étais allée en commençant par des sites web que je trouvais vraiment intéressants. Il y a deux finissantes en sexologie de l'UQAM que tu connais peut-être, Florence, qui ont parti le blog SexURL, qui est vraiment intéressant. C'est une plateforme qui ressemble un peu, en fait, à la vôtre aussi. Donc, peut-être, il y a des liens. On peut poser des questions. Ça s'adresse particulièrement aux adolescents et adolescentes, et leur tagline, si on peut dire, je m'excuse, mais c'est « Réfléchis à ça ». Donc, ils font des capsules sur le web, c'est super sympathique, ils sont dans leur auto, ils jasent ensemble, la caméra est sur le voyons, je vais-tu le dire, le tableau de bord, et le dash, ah, merci, c'est plus court, hein, sur le tableau de bord, puis on a vraiment l'impression de faire un tour avec eux, avec elles, puis ils se posent des questions, ça peut être autant sur la première fois, sur l'orientation sexuelle, sur plein de choses, c'est super intéressant. Sinon, une initiative que j'ai trouvée super intéressante aussi, mais qui malheureusement, je viens de savoir que c'est mouru, c'est This is Better Than Porn, qui était très intéressante, autant du côté... pour la diversité corporelle. Je pense entre autres au projet de Julie Artachaud qui se décrivait, je reprends ses mots, qui disait « Montrer la sexualité d'une fille ronde dans l'intimité, c'est quelque chose qu'on voit rarement. » Ça a fait vraiment le tour, puis ça a posé aussi beaucoup de questions parce que ses photos ont été censurées sur Instagram plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose que moi, j'observe aussi beaucoup, la censure sur les réseaux sociaux. C'est très, très, très présent. Juste en exemple, moi, j'ai mis une photo à un moment donné de mon blog sexo sur Facebook, puis j'ai été kickée out de Facebook pendant 2 jours, et c'était un homme et une femme, un par-dessus l'autre, on voyait juste un petit coin, puis Facebook ont considéré que ça passait pas, là. Il fallait pas montrer ça, ce que je trouve épouvantable. Mais donc, c'est ça, donc Julie, il a fallu qu'elle remette, je pense, 3 fois la photo sur Instagram avant que ça soit accepté, et Instagram n'arrivait pas à expliquer la raison pourquoi. Donc, gros problème à ce niveau-là. Donc, This is Better Than Porn, ça n'existe plus, mais les archives sont encore là, ils ont fait un livre super intéressant qu'on peut encore se procurer. Si vous avez des questions, si vous avez des interactions, n'hésitez pas. Je suis venue.com, que j'aime beaucoup aussi, qui n'est pas non plus alimenté en ce moment, mais je vous en parle quand même parce que c'est quand même disponible sur le web. C'est une plateforme qui propose des illustrations, collages, dessins et textes qui parlent de sexualité, mais vraiment de sexualité plurielle. C'est très, très beau, entre autres, à voir. Je m'en voudrais de passer à côté de Caresses magiques, qui a sorti un livre récemment, un projet féministe. Un projet éditorial féministe qui demande à des femmes de parler de leur sexualité le plus ouvertement possible. Ça peut être autant de masturbation, ça peut être autant d'abstinence, avec des textes avec de l'humour très intéressant, les filles qui ont lancé ce projet-là. Il y a une revue, est-ce que j'ai encore? Oui, OK. Il y a une revue, puis là, je parle vite en plus pour être sûre d'en dire le plus possible. Les trois sexes qui s'en viennent par des jeunes femmes de l'UQAM, encore une fois, pour sexe, sexualité et sexologie. Je n'ai pas pu voir, mais je fais juste vous le dire comme piste à aller consulter. Ça sort en septembre. Nouvelle revue qui va être, elles se disent, à mi-chemin entre le journal académique et la revue culturelle.
Imprimée ou web?
Imprimée. Oui, imprimé et des articles sur le web aussi. J'ai donné beaucoup de trucs québécois parce que je me l'avais demandé, mais je vais aller ailleurs un peu pour avoir le temps d'en parler. Moi, j'aime particulièrement beaucoup le blog de Agnès Giard, qui est une docteure en anthropologie et journaliste qui a un blog qui s'appelle Les 400 Q sur le journal Libération. Et elle fait des blogs incroyables. Je dirais, elle va autant dans la culture pop que la culture un petit peu plus nichée. Mettons, elle va parler d'un film en ce moment qui est à l'affiche. Elle va se permettre de faire un texte par rapport à la sexualité là-dedans. Comme là, en ce moment, il y a un film en France qui s'appelle Les Infidèles. Et évidemment, c'est l'espèce de reprise sempiternelle des hommes qu'on doit donc aller voir ailleurs et tout, et qui mettent les femmes de côté un peu comme des objets sexuels. Et elle questionne ça dans le dernier blog qu'elle a mis en ligne. J'aime aussi, ça, c'est les choses que je vais voir le plus souvent possible, Agnès Giard, Maya Mazorette, qui a le site, qui écrit pour la revue GQ France et qui a le blog qui s'appelle Sex Actu. Elle écrit un peu partout, elle écrit aussi dans Le Monde. Chaque dimanche, elle a une très, très longue chronique où elle parle d'un sujet sexe, peu importe lequel, elle parle vraiment de tout. Sexualité aussi, puis elle est très, très drôle. En plus, elle fait aussi des vidéos sur YouTube. un site que j'ai connu. En fait, moi, j'écoute souvent l'émission Trax qui passe sur Arte en France, qui est une émission assez, je dirais, underground et un peu trash sur les bars. Et ils vont souvent parler de sexualité, mais ça m'a permis de connaître, entre autres, le site web Pornceptual. J'ai un accent à tout casser, là, mais c'est un site de pornographie, mais qui est conceptuel et artistique. Donc, ça peut être autant un film porno qui s'inspire du dadaïsme ou du mouvement Bauhaus, ou en exemple, qu'est-ce qu'il y avait le dernier coup? C'était un peu néo-gothique. C'est un peu trash, mais c'est très, très beau à voir. C'est vraiment très, très beau. Évidemment, il y a des éléments qui sont payants, mais il y a beaucoup de choses gratuites pour voir de quoi ça a l'air un peu, puis vous donner un aperçu. Tu me laisses aller? OK. OK, je vais essayer de trouver les... OK, je vais aller. J'en ai trop. OK, je m'en voudrais de... C'est sûr que sur YouTube, je consomme beaucoup de YouTube, mais je dirais que j'y vais plus pour la musique, parce que je travaille dans le domaine de la musique en ce moment. Mais si vous voulez voir une jeune fille qui fait vraiment des super belles capsules sur la sexualité, elle s'appelle Lacey Green. Elle est vraiment drôle. OK, elle a une voix un peu... juste le mot anglais, annoying des fois, là. Fait que baisser le son un peu. Mais elle est très drôle, puis elle est très, très enthousiaste, puis elle parle vraiment bien la sexualité et de façon très, sans jugement, vraiment très ouvert. Puis elle connaît son affaire, puis elle sait où elle s'en va, puis il n'y a pas de gêne. Il y en a des fois sur YouTube qui vont se permettre de faire des tutoriels, oui, il y en a aussi, là, mais des qui se lancent un peu dans la culture YouTube en donnant leur opinion, mais ce n'est pas tout le monde qui a le talent de le faire. Lacey Green, elle est vraiment très, très, très bonne. Elle en fait aussi sur Snapchat. Puis j'en dis sur Instagram, puis après j'arrête. Instagram aussi, j'en nommerai trois rapidement. Stéphanie Sarley, allez voir ça. Si vous voulez voir un compte Instagram où il n'y a absolument aucun corps et que des fruits et des légumes qui, avec des doigts, sont pénétrés et caressés de façon la plus érotique qui soit, c'est incroyable. Si vous ouvrez ça à votre job, pour vrai, vous allez être mal à l'aise. Là. C'est pas, c'est not suitable for work, mais il y a juste des fruits et des légumes. Mais c'est incroyable, la fille a vraiment du talent. C'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Alpha Channeling, c'est un artiste anonyme qui dessine des scènes érotiques. C'est des dessins très psychédéliques, inspirés du tantrisme, du bouddhisme. C'est magnifique, vraiment très, très beau. C'est comme drôle de décrire puis pas le voir, mais... que vous avez tous des téléphones. Puis la dernière que je dirais, Sylvie Shells, que j'ai découvert récemment. Si vous cherchez le mot, clique Glitterotica. Elle prend des vieux films porno, des images figées, puis sur l'endroit spécifique qu'on ne peut pas voir et qu'Instagram va censurer, elle met des glitters. C'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment chouette et très coloré. Voilà.
Merci beaucoup. Mais oui, elle a vraiment quatre pages. Et puis, ils vont se retrouver sur... tu mettras un lien peut-être vers ton blog sur l'entrée libre. Oui, dans l'événement d'entrée libre. Ben normalement, je les ai laissé parler plus longtemps, mais je trouvais ça vraiment intéressant, puis je voulais leur laisser le plus de place possible. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes... J'ouvrirais déjà à des questions dans le public, si vous en avez, pour l'une des quatre intervenantes, s'il y a des questions, des pensées, des liens que vous avez faits, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Vous êtes gênée? Oui, c'est ça, on parle de sexe. Mais là, on les a tous dit, les gros mots. Vous pouvez les dire maintenant, vous aussi. Non? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voulait poser une question à l'une des autres? Est-ce qu'il y a une intervention qui vous avait... parce que je voulais vous prioriser...
Pas le débat, mais la discussion. Je me demande quand est-ce qu'on va apprendre aux jeunes à l'école, les filles, souvent c'est une question pour vous autres, là, que le clitoris est un organe interne et qu'il mesure 23 cm, si je ne m'abuse. Ça dépend si tu colles les deux racines. Le clitoris est un organe interne. Je l'ai su il y a 3 ans. C'est épouvantable. On est dans une société obscurantiste. Je ne peux pas comprendre que j'ai su ça, puis je l'ai appris à ma mère.
Ben, c'est comme ça que je l'explique en général aux jeunes. Fait que c'est une très belle métaphore, mais je suis contente que tu l'amènes parce que ça m'a fait penser aussi quand tu as parlé de la censure sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou peu importe. On a une censure au Québec et en Amérique du Nord en général, je trouve qu'il est hypocrite, en fait. Parce que oui, on va censurer. Il y avait un compte Instagram à un moment donné d'une fille qui faisait des photos où on voyait des taches de sang menstruel, puis elle s'est faite censurer. On voit un mamelon. Il y a eu tout le mouvement Free the Nipples aussi. On l'a censuré. Ben, on parlait de la censure des mamelons. Par contre, nombre de pages Facebook où on voit des filles en string s'écarter les fesses en faisant du CrossFit ou je sais pas. En tout cas, peu importe. Là, c'est pas le... du yoga nu. Oui, on sait. Ben, il y a tout ce peu. Et cette phrase-là, je l'aime tout ce peu parce que ça m'a fait penser tout ce que tu as dit par rapport aux filles qui parlaient ensemble, puis où tu disais, mais dans le fond, tout le monde a une réalité différente. On peut tellement amener des choses uniques quand on discute réellement de sexualité. Puis moi, c'est ma phrase préférée depuis que je suis en sexologie, c'est tout ce peu. Tout ce peu. J'ai commencé à avoir mes premiers clients en thérapie cet été, puis tout ce peu, dans le sens où moi, ça m'a ouvert un monde, là, c'est juste merveilleux. Mais la censure est donc vraiment hypocrite au Québec, et même si on se veut un endroit dans le monde extrêmement féministe, où on prône quand même pas mal l'égalité des sexes, où on tend à de meilleures conditions, ben l'hypocrisie est encore beaucoup plus en défaveur de la femme. Et donc, on ne va pas aborder des questions quand même assez substantielles comme le clitoris. Et il y a une fille, qui, je ne me souviens plus de son nom, malheureusement, il ne me revient pas, mais qui a fait un super article sur Internet où elle s'est amusée avec une BD. Elle a fait une BD pour expliquer de façon très, très concise et facile à comprendre comment fonctionne le clitoris. Et je l'ai trouvé merveilleux. Je ne sais pas comment vous pourriez trouver ça sur Internet. Oui, oui, exactement. Check ta chatte. C'est exact. C'est le nom du. Merci. C'est exactement ça. Et en fait, moi, je me rends compte. Parce que là, je suis éducatrice dans un cadre qui n'est pas scolaire en ce moment. Je travaille avec des jeunes qui sont retirés de leur famille. Et je vois, en fait, j'ai instauré moi-même ce que j'ai appelé des soupers sexos à toutes les deux semaines pour qu'on aborde toutes sortes de thématiques comme ça. Parce que je me rendais compte que même au sein d'une organisation que sont les centres jeunesse de Montréal, où il y a un programme d'éducation à la sexualité qui est approuvé, connu, où est-ce qu'il y a des gens qui sont formés pour le donner pendant tel nombre de semaines par année, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas abordées. Puis j'ai décidé d'amener ma petite touche à ça et d'aller avec vraiment des boîtes à questions, donc d'aborder toutes sortes de sujets. Je fais des ateliers de pose de condoms avec les jeunes où est-ce qu'on finit par gonfler des condoms avec de l'eau puis les éclater partout dans la cuisine. Puis, tu sais, j'essaie vraiment de rendre ça le plus informel possible, le plus agréable possible pour les jeunes, parce que de s'asseoir en rond puis d'avoir les 6 objectifs spécifiques à remplir à la fin... Ben là, j'ai les collègues de sexo qui commencent à comprendre de quoi je parle. Et d'ailleurs, je vous ai amené des petits tableaux synthèses du ministère de l'éducation qui, ça, en fait, c'est les apprentissages qui vont être prévus par le projet pilote. À partir de la maternelle jusqu'au secondaire, pour chaque année, il y a des thématiques. Justement, il va y avoir des thèmes comme la croissance sexuelle et l'image corporelle, tout ce qui est identité de rôle, stéréotypes de genre, etc. Tout ce qui est vie affective, amoureuse. Et puis, on a la thématique de la relation sexuelle qui revient fréquemment aussi parce qu'on veut faire de la prévention. Et puis, il y a aussi grossesse, naissance et globalité de la sexualité pour ce que ça peut bien vouloir dire. Mais je trouve ça dommage parce que ces tableaux-là sont rendus publics, ils sont sur le site web du ministère de l'Éducation, mais personne ne les connaît. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais en imprimer des copies, je vais les amener. Et puis, en fait, ces tableaux-là ont beaucoup été donnés aux écoles participantes. Les écoles participantes, en fait, sont des écoles qui se sont portées volontaires pour participer au projet pilote. Puis là, je divague complètement de ta question sur le clitoris, donc je m'excuse. Oui, on va parler du clitoris.
Ouais. Une chercheuse française, française qui a récemment imprimé en 3D un clitoris pour le montrer dans les classes, puis dire on va partir à partir de là pour montrer que c'est un organe complet, puis c'est plus complexe qu'on pense, puis c'est plus énorme qu'on pense en fait là. On le sait-tu?
En fait, c'est drôle parce qu'on ne sait pas exactement de quoi ça a l'air un pénis, des fois, quand on a juste vu le fameux pénis en bois. Parce qu'il y en a qui ont juste vu le fameux pénis en bois, puis des fois, tu te retrouves un peu pris au dépourvu quand c'est plus le pénis en bois. Mais ce que je voulais dire par rapport, en fait, à tous ces apprentissages-là, c'est que les écoles qui se sont proposées pour participer, en fait, elles ont fini par être déterminées par le ministère de l'Éducation sur la base de la représentativité, dans le sens... Dans le Québec au complet, ils se sont dit, on va essayer de prendre autant des écoles francophones, anglophones, des écoles privées, des écoles publiques, des écoles de filles, des écoles de garçons, des écoles dans les grandes villes, des écoles en région, pour être sûr qu'on ait comme un portrait et un feedback un petit peu plus diversifié que si on avait tout concentré dans la région du Grand Montréal, puis que ça n'aurait pas été... voilà.
J'aurais une question parce que la question se pose, on y répond de soi-même quand on est sexologue, c'est la question de la responsabilité par rapport au métier, sauf que du côté par exemple, d'une curatelle de contenu web ou des artistes en écriture ou autre, est-ce que vous associez une certaine responsabilité à votre travail? Est-ce que ça peut même aller jusqu'à un danger ou à une... Est-ce que tu as l'impression que ça peut être un ennemi? Puis là, j'adresse la question un peu à large, mais je vais passer le micro à Sarah.
Moi, dans mon expérience, je l'ai senti vraiment vite, en fait. J'ai commencé ça avec beaucoup de liberté, puis là, rapidement, je me suis fait ramener en faisant « Attention, tu es dans une école secondaire. Attention, il y a des communautés culturelles diverses qui ne sont pas toutes au même degré d'ouverture par rapport à parler, à aborder ces questions-là avec les jeunes. Attention, attention. » Fait que rapidement, d'un projet qui avait l'air très libre, je me suis ramassée avec des barrières à peu près de toutes les bords, de tous les côtés. Fait que ça a été beaucoup un travail de contorsionniste, là, de James Bond ou de Mission Impossible avec des lasers un peu partout, là, de dire « je vais arriver à parler de ça de même ». Mais en même temps, ce que je trouve le fun avec ce type de projet-là, c'est que, tu sais, en étant backé avec un programme, avec des sexologues à l'école, en sachant qu'eux vont en parler de manière comme adéquate, bien, ça laisse au théâtre la liberté d'être du théâtre, puis d'être artistique, puis de ne pas être un cours où on donne les solutions. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup revendiqué dans mon écriture. C'était, je ne vais pas faire un objet rappé d'une heure où, tu sais, vous allez partir de là, puis vous allez tout savoir comment gérer ça, tu sais, la pornographie, pas de problème. Tu sais, premièrement, je ne suis pas qualifiée pour faire ça. Tu sais, il y a des gens qui le sont mille fois plus que moi. Puis deuxièmement, moi, ma job comme artiste, c'est de pointer une situation puis d'essayer de voir avec quoi on est aux prises socialement puis qu'est-ce que ça fait à... Tu sais, notre job d'auteur dramatique, c'est d'inventer des humains puis de voir comment ils se dépatouillent dans un monde, tu sais. C'est d'aimer les humains puis de faire comment ces humains-là vivent ça. Fait que je dirais qu'à quelque part dans le travail, j'ai comme été capable de faire la paix avec ça puis de dire, bon, moi, mon humaine, elle vit comme ça, elle s'en va comme ça, puis après, tu sais, ça sera aux intervenants de prendre la POC puis de gérer en donnant des outils ou en donnant des alternatives de pornographie féministe, positive, égalitaire, diverse et tout, pour que les jeunes aient d'autres sources d'informations, là. Mais... ce qui m'avait choquée au début, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti qu'on attendait de ma pièce qu'elle soit l'outil d'éducation ultime. Puis là, j'ai fait, ben, hey, sérieux, je peux pas endosser cette grande mission. Tu sais, il faut quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense que c'est vraiment un job de relais entre plein de monde. Tu sais, oui. Ben, l'absence de programme, qu'à un moment donné, personne n'en parle, fait que tu fais, OK, ben, on va mettre une pièce, ça va en parler, puis ça va être ça. Mais tu sais, c'est sûr, c'est pas assez. C'est sûr, c'est pas. Puis là, c'est merveilleux. Tu sais, je veux dire, il y en a chaque année, puis je pense que ça prend ça parce que ça ne peut pas être le contrat d'un seul prof ou d'une seule œuvre.
Oui.
Oui. Oui. Selfie. Oui. 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 Ah oh non, c'était 18 ans et plus. C'était 18 ans et plus. Ça, Selfie, c'est un autre texte que j'ai écrit, mais ça, c'était vraiment une démarche comme aux antipodes. Selfie, c'est vraiment un metteur en scène qui s'appelle Philippe Cyr, que c'était comme son projet à lui, sa commande, puis c'était... il avait envie de représenter la sexualité de manière vraiment très, très crue et sans un peu ce que tu dis au niveau du langage, mais là, de manière physique, visuelle, donc des acteurs nus, des projections avec des trucs très, très graphiques, voire chirurgicaux. Là, on était à l'intérieur, on avait des caméras chirurgicales et tout. Là. Fait que c'était vraiment une autre approche. Là, il y avait très peu de métaphores. Ben, non, c'est encore drôle. Il y avait de la métaphore parce qu'à un moment donné, Ils voulaient parler de ça, les corps parlaient beaucoup, puis moi, comme auteur, je ne savais plus où me mettre par rapport à ce visuel-là. Et j'étais comme, qu'est-ce qui me reste, moi? Qu'est-ce qui reste à dire une fois que c'est tellement montré? T'sais, c'est tellement là que je ne vais pas décrire ça en plus parce que ça ne sert à rien. Ça va être banane-banane. Ça va être voici. Fait que je ne vais pas faire ça. Fait que, c'est une pipe. Fait que, tu sais, on va pas aller là. Fait que ma petite pirouette que j'ai trouvée pour ça, c'est d'aller... Je suis allée dans des espèces de petits contes d'anticipation. Là, ça a l'air très bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'était un show qui abordait le regard sur soi, tu sais, l'hyper... L'hypersexualisation, mais le fait d'être excité par sa propre image et de vraiment s'auto-satisfaire. Puis on ne voulait pas porter de jugement moral non plus là-dessus. On voulait vraiment être dans la fascination de ce fait-là, de se regarder et d'être son propre objet d'excitation. Et le fait de toujours vouloir en enlever plus, se dénuder plus, se montrer plus, se regarder. Fait qu'on était vraiment dans ce rapport-là à sa propre image. Fait que la traque qu'on avait trouvée, c'était vraiment de présenter des espèces d'autoportraits. Fait que je faisais des espèces de doubles fantasmé des comédiens qui avaient une espèce de double qui vivait. Tu sais, par exemple, il y avait une fille qui rêvait d'enlever sa peau pour que les gens la voient plus, pour être plus tout nue. Fait qu'elle se faisait une opération puis elle devenait à vif puis elle tripait. C'était comme ça son truc. Ou il y en avait un autre qu'il se faisait cloner à l'infini pour se regarder baiser. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de place pour le partenaire. Fait qu'il faisait juste se regarder fois genre 500. Fait que j'avais trouvé comme des espèces de petites métaphores pour aborder ça, mais pour laisser toute la place justement à la mise en scène qui était dans le très, 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 très in your face. Voilà.
Je pense que Myriam avait quelque chose à propos de la question de la responsabilité puis de la mise en danger peut-être par rapport au métier.
C'était la réflexion que tu faisais sur toi en tant qu'artiste, tu faisais ça, mais on en a parlé au début un peu. C'est quelque chose qu'il faut dire aussi par rapport au programme de sexo qui est offert. Peut-être que tu seras d'accord ou pas avec ça, mais le programme de sexo en ce moment est en refonte. Je pense que c'est important de le dire. Et il y a eu une très longue lettre qui a été adressée récemment sur le fait que le programme de sexo... tel qu'il est construit actuellement, est très hétérocentré. Et pour quelqu'un comme moi qui arrive du domaine des arts, là, être en sexo en ce moment, c'est super dur parce que c'est vraiment gavé de l'information très clinique, très technique. Donc, cet aspect-là, que moi, je trouve super intéressant puis que je pense que Laima pourrait dire aussi qu'elle a eu de la misère avec ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans ces formations-là. Je le dis parce que c'est le seul programme qui est offert puis c'est mon point de vue aussi là-dessus, mais je pense que c'est important de le dire parce que ça a été médiatisé, ça a été parlé aussi dans... je sais que Judith Lucie a refait un texte là-dessus, puis je pense que les gens qui ont cette façon de voir, tu sais, en ce moment, tu arriverais puis tu déciderais d'aller étudier en sexo, tu verrais folle, là, je pense, juste de même. Fait que, faut vraiment, mais tu sais, il y a quelque chose de très, je pense qu'on peut se mettre à réfléchir puis à amener ces concepts-là plus approfondis une fois que ça s'est évacué. Parce que, tu sais, en sexo, ce qui fait rire aussi, puisqu'on parlait au début, je reviens sur d'autres choses, sur la gêne, la timidité et tout. Tu sais, dès qu'on parle de sexe, c'est tout le temps un rire niais quelque part. On était comme gênés d'en parler. Puis moi, la plupart du temps, quand j'ai annoncé que je m'en allais en sexo, la réaction, c'était « Ouh! » Puis j'étais comme « OK, je m'en vais pas apprendre à faire du sexe, là. » Je veux dire, je le sais déjà. Puis c'est pas ça, la sexo. Puis l'affaire aussi, c'est que juste les cours que j'ai fait jusqu'à maintenant, là, je parle pour moi, c'est pour faire du je, mais c'est pour donner l'exemple. C'est beaucoup lié à la crimino, la sexo, là. C'est beaucoup lié à la médecine, c'est beaucoup lié. Tu sais, donc, c'est des choses très, très terre à terre. Puis je dis ça parce que je t'entendais parler sur l'aspect artistique, puis l'aspect. L'être humain est complexe, puis des fois, j'ai l'impression qu'en ce moment, le programme tel qu'il est offert ne représente pas. Et c'est pour ça qu'il va être changé. On touche du bois, je ne sais pas si c'est du vrai bois, on croise les doigts, on fait tout, pour que ça soit vraiment beaucoup plus ouvert, mais actuellement, c'est très hétérocentré, puis c'est très peu ouvert sur des sexualités que je pourrais dire, je vais mettre des guillemets, atypiques. Tu sais, je ne sais pas si Florence, tu peux...
Ouais.
ce débat-là qu'il y a eu cette année par rapport au bac. Ben, oui, au baccalauréat en sexologie, moi, il me met toujours un peu mal à l'aise parce que j'ai beaucoup de difficultés à me positionner de façon tranchée là-dessus. J'ai été très d'accord avec, avec plusieurs aspects qui ont été dits dans cet article-là qui a été écrit par les minorités rouspéteuses, si je me souviens bien. Et par contre, j'avais comme des bémols aussi où est-ce qu'il y avait comme une remise en contexte à faire. Le programme, j'ai l'impression que ça fait 60 ans qu'il est en refonte, dans le sens où c'est un programme qui est... Ben oui... Puis c'est que le programme était particulièrement novateur. Le département de sexologie a été fondé en 1969, pour votre information. et puis, c'est juste que faut comprendre qu'au début, c'était un programme qui était vu comme très particulier, très peu crédible, où est-ce qu'on pensait que tout le monde allait là pour coucher avec tout le monde, puis faire des expérimentations de travaux pratiques sur les gens. Puis il y a eu des abus, clairement. Là, il y a eu des choses qui étaient moyennement legit dans la façon qu'on pratiquait la sexologie dans ces années-là. Ce qui fait que probablement, il y a eu une espèce de montée de la scientificité ou de la crédibilité de la sexologie comme étant une vraie science sociale fondée sur des bases importantes, sur le fait que ça devait être reconnu comme une profession à part entière et non pas qu'on était des espèces de chamans tantriques qui allaient vous faire avoir 22 orgasmes de suite en allumant des bougies, là. En tout cas, c'était, je pense qu'il y avait comme c'est ça, cette espèce de souci-là du département de s'éloigner de ça. Et puis, autre facteur qui était important là-dedans, c'est que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a un ordre professionnel. Et je pense qu'il y avait beaucoup de critères à remplir pour avoir enfin un ordre professionnel.
C'est le seul ordre professionnel, le premier en Amérique du Nord, où il y a comme un... Excusez.
Non,
mais vas-y. Non, mais okay. Je parle des sexologues. Oui.
Ben, il y a l'ordre des psychologues du Québec, oui, tout à fait. Oui, on a vraiment, comme mondialement, on a cette crédibilité-là et je pense que c'est quand même une belle chose qu'on a réussi à faire parce que c'est pas comme une espèce de sous-métier bizarre pratiqué à la broche à foin avec quelqu'un qui a mis un écriteau sur sa porte en disant « je vais vous apprendre la sexualité ». Donc oui, en effet, il y a vraiment des choses qui étaient à refaire dans le baccalauréat. Il y avait beaucoup trop de cours de toutes sortes de choses liées à la recherche, par exemple. Donc, quand tu voulais devenir clinicien ou sexologue, éducateur, c'était comme... On n'en pouvait plus, là, justement, là, des objectifs spécifiques et des objectifs... En tout cas. Et puis, l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que ça répond aussi... tu parlais du fait qu'il n'y avait pas de programme d'éducation sexuelle. Il y a comme aussi un bémol là-dessus, dans le sens où il y avait le programme de FPS, qui était Formation personnelle et sociale, qui a eu jusqu'à la fin des années 90. Et là, début 2000, ils se sont dit, on ne va pas en faire une matière à part entière, on va s'assurer que ce soit fait dans la globalité de la scolarité de l'enfant ou de l'adolescent. Là, c'était probablement dans une belle optique. Ils se sont dit, on va faire rentrer ça dans la cour d'école avec les surveillants, on va faire rentrer ça avec l'infirmière, l'infirmier, on va s'arranger pour que les professeurs en littérature abordent des textes qui parlent de sexualité. Puis, c'était super beau comme idée. Le problème, c'est que quand c'est la job de tout le monde, c'est aussi la job de personne. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. D'où le besoin du projet pilote qui était de garder ça le plus large possible, mais de le cadrer. Dans le sens où on se dit, chaque niveau doit avoir 5 à 15 heures d'éducation à la sexualité par année. Il va falloir, c'est ça, toucher à certaines thématiques. Et encore là, je dis 5 à 15 heures, pour moi, c'est carrément pas assez, là. Mais c'est mieux que rien pantoute. Donc, tu sais, c'était comme une espèce de juste milieu où est-ce qu'on allait arriver à cadrer et aussi de savoir qui allait pratiquer cette éducation à la sexualité-là, que ce soit pas forcément un professeur qui décide du jour au lendemain de s'improviser intervenant en sexualité, là. Donc, c'est ça, c'était les petits ajouts sur ce qui s'est dit sur le projet.
Oui, il y a 2 questions. Il y avait Pascal Brûlemans et Olivier Sylvestre. Il y a un micro à l'avant ici. Mais je vais la répéter alors. Parce que c'est enregistré, ça fait c'est un podcast après.
Dans une commande d'œuvre. Mm-hmm. Mais, à un moment donné, Jean-Pierre Onfard disait que le monde voulait le voir au show quand il est venu. Est-ce que. Et donc, il disait ça en riant. Et je me demandais, Catherine Sahas, si vous n'avez pas l'impression non plus d'avoir un tag en tant que fille auteur qui portait ce sujet-là, ces tabous-là. Et donc, dans un premier temps, c'est ça, est-ce que vous vous sentez tagué comme artiste? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous sentez que vous avez atteint le fond de la question à travers les œuvres?
Donc, il y avait une question de Pascal Brûlemange. Je vais juste la répéter parce qu'on est en enregistrement. Donc, Pascal Brûlemange qui demande à Catherine Chabot et à Sarah Bertium si elles se sentent taguées au sujet de la sexualité comme des femmes auteurs qui écrivent sur le sexe et si elles ont l'impression, à un moment donné, d'avoir fait le tour de la question, d'avoir touché au fond de cette question-là.
Ben, en fait, c'est ça. Je parlais de ça avec justement un de mes amis qui était comme, tu sais, quatre table rase là. Tu sais, c'est pas un show sur la sexualité pour moi. C'est pas un spectacle uniquement là-dessus. Puis il était un peu comme fâché que je prenne parole, puis que je prenne position là-dessus. Pas position parce que j'ai pas nécessairement de position. Là, je parle de ma petite subjectivité propre, mais. Fait que c'est ça, c'était comme, tu sais, c'est pour moi, c'était pas ça, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ça, mais j'ai comme l'impression aussi, tu sais, comme au lancement de jeu, puisque je suis en position de détente sur le cover, je me disais qu'il faut que dans. J'asais de ça justement publiquement au lancement. Je suis pas la Jocelyne Robert du théâtre et je ne suis pas la Anne-Marie Lozic du théâtre non plus, mais effectivement. Je ne sais pas ce que ça va donner par rapport à ça. J'ai l'impression de ne pas avoir fait le tour du tout non plus, de ne pas être allée au fond de la question. Parce qu'effectivement, tu sais, plus en vieillissant, juste par exemple en vieillissant, en accouchant, en vivant une sexualité avec un partenaire sur plusieurs années, avec un corps qui va vieillir, la sexualité est en mouvement. Fait que j'ai vraiment l'impression que non, effectivement, c'est comme c'est un sujet qui est comme qui est intarissable, qui est comme ça. Un puissant fond, cette affaire-là. Fait que j'espère avoir la chance de pouvoir écrire là-dessus éventuellement aussi sur comment ça se modifie en moi et en mes collaborateurs futurs. Mais ouais, j'ai l'impression, ça recoupe un petit peu l'affaire sur la responsabilité. J'ai l'impression que le fait d'être une fille qui parle de ces sujets-là, ça touchait une gang de monde, ça. Je pense que le collectif Chienne, puis à travers l'événement de... Bon, en tout cas, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais je pense qu'il y a certains groupes que ça peut choquer. Puis là, je me dis, coudon, c'est comme si... ce que je veux dire, c'est que je pense... Je me sentais personnellement intaguable par rapport à ça parce que je me dis que ça fait tellement partie de la vie, je comprendrais pas pourquoi je serais taguée de cette manière-là parce que, coudonc, on écrit bien sur des affaires, puis je veux dire, Annick Lefebvre est pas taguée, juste des... Mais c'est ça, mais oui, non, mais c'est ça, mais c'est oui, mais en même temps, pour moi, tu l'es pas, tu comprends-tu? Tu sais, c'est comme... Puis, c'est... Non, mais je trouve ça...
Catherine se censure, mais elle a eu des réponses hyper positives de personnes, des femmes qui sont venues la voir et des gars qui sont venus la voir pour lui dire que c'était extrêmement important qu'on parle ouvertement dans des mots simples et de sujets aussi délicats que c'était-tu un viol ou c'était pas un viol? Quand j'ai mis la switch à « Ah non, je suis pas en train de me faire violer, c'est juste ça me tente moyen en ce moment. » Puis, d'un autre côté, Catherine a eu des réactions très négatives de la part de certaines personnes, surtout des hommes, qui ridiculisaient cette prise de parole-là et qui la trouvaient dérangeante. Mais dérangeante, c'est difficile de savoir à quel niveau. C'est pour ça que c'est difficile à nommer, parce qu'effectivement, si les personnes qui ont tagué, en quelque sorte, Catherine, c'est pas les femmes qui ont dit « Cool, maintenant, parle de, rien que de ça pendant 40 ans », c'est plutôt d'autres personnes qui ont dit « Ben, c'est ça, fais ta carrière sur ta sexualité, de petites filles, c'est une réaction. Et puis là, je ne veux pas généraliser, ce n'est pas une question homme versus femme, c'est certaines personnes, mais ça a généré des réactions parfois même violentes. Donc, il y a une responsabilité, puis il y a un danger à prendre la parole comme ça, comme femme. Puis il y a un danger qu'on attribue une étiquette. Je veux dire, même en acceptant de venir parler ce soir, Catherine a eu des échos de ben c'est ça, retourne-y, parler de tes fesses, petite fille. Ben ouais, va prendre la parole à propos de ta sexualité de fille libérée. Puis je veux dire, ça a généré des... Puis je m'excuse, là, je le dis parce que j'ai senti que Catherine se sent ça, puis je trouve ça super important que ce soit dit, que c'est pas tout rose non plus, c'est pas tout le monde qui fait « go girl », revendique et parle ouvertement. C'est pas encore le cas. Je ne vais pas répéter l'intervention de Christian Saint-Pierre, malheureusement. Il y avait Olivier Sylvestre qui avait une question. Est-ce que tu veux venir la poser dans le micro, s'il te plaît?
On va travailler là-dessus.
Ça se rend-tu? Je voulais juste d'abord dire à quel point je trouve ça intéressant tout ce qu'on entend en ce moment. Puis, je vais juste m'avancer un petit peu. Je suis comme au bout du fil. À quel point ça m'intéresse et ça me trouble aussi, entre autres. Puis, ma question est pour Florence par rapport à la disparition des cours d'éducation sexuelle, même si, effectivement, c'était censé être diffus à l'ensemble du corps professoral. On sait très bien que le prof de maths va pas... En tout cas, bref, c'est complètement débile. Mais en tout cas... Puis moi, je suis comme inquiet parce que mon prochain projet d'écriture dramatique porte le titre provisoire de guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Donc, je retourne dans mon adolescence, en fait, pour raconter un peu mon trouble à 16 ans, avec le pari de raconter ça aux ados maintenant. Puis, donc, je m'intéresse beaucoup à cette question-là. Puis, ça me questionne beaucoup à savoir quelles sont les séquelles, quelles sont les conséquences, en fait, de toute cette génération-là, des 10 ans ou plus, où il n'y aura pas eu d'éducation sexuelle, ou quelle est l'image de la femme chez les adolescents garçons, quelle est l'image de la sexualité, si c'est seulement la porn qui les a éduqués. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Est-ce que tu peux me rassurer ou pas, ou qu'est-ce que tu en penses, toi?
C'est immense comme question. Je ne sais même pas par où commencer, en fait. Je pense que c'est vraiment génial que tu veuilles faire un ouvrage comme celui-là. Moi, j'ai déjà une professeure d'anglais qui m'a demandé de venir faire toutes ses classes de secondaire 5 parce qu'elle leur faisait lire un livre qui s'appelait Crash and Burn, qui est vraiment excellent, je vous le recommande si vous pouvez, où on suit un adolescent, justement, au travers de son évolution dans son enfance, son adolescence, puis il y a beaucoup de contenu sexualisé, très cru, là, comme un ado le dirait. Et elle m'a demandé de venir en classe, justement, puis de juste jaser avec les jeunes, de voir qu'est-ce que ça leur avait suscité comme réaction, est-ce qu'ils se reconnaissaient ou pas. Ça a été des échanges absolument formidables. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle initiative parce que oui, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de professeurs, peu importe dans quelle langue, qui fassent lire des choses où on parle de sexualité, puis qui reviennent sur le sujet après parce que tu n'ouvres pas le livre, puis tu le laisses comme ça, puis fais ce que tu veux avec. Parce que je me suis retrouvée devant des classes où il y avait des jeunes filles asiatiques de 15-16 ans qui disaient « ben moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette culture hypersexualisée-là, où est-ce qu'on regarde énormément de pornographie, on traite les filles un peu comme des objets, on attend le prochain blowjob, puis tu sais, c'est comme... Puis pour parler de pornographie et de tout ce qui est cybersexualité, en fait, parce que ça va plus loin que la pornographie, je pense que c'est le genre de choses pour lesquelles on s'alarme beaucoup, et il y a des raisons de s'alarmer. Le problème, c'est que c'est comme n'importe quelle évolution dans la société. Au début, on capote toujours, et à un moment donné, on finit par construire la façon dont on gère les familles, les couples, l'éducation, l'école, la politique, l'économie, en fonction de cette évolution-là. Et je pense que la pornographie, ça va être ça, dans le sens que plutôt que de se fermer les yeux puis de se dire faut pas en parler, faut censurer, faut empêcher nos enfants de la regarder, ben faisons de l'éducation à la pornographie. T'sais. Dans le sens, parlons rapidement à nos jeunes de qu'est-ce qu'ils vont voir sur Internet, apprenons-leur à développer un sens critique par rapport à ce qu'ils voient, à choisir certaines choses, à leur expliquer comment c'est fait, c'est quoi les coupures qu'il y a au montage, comment ça que la fille est lubrifiée comme ça, puis ils ont des pauses, puis ils vont fumer une cigarette, puis ils recommencent. Puis tu sais, c'est comme, il y a plein de choses qu'on peut discuter, mais c'est vrai que les parents ne sont pas toujours outillés pour le faire. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est à l'aise de parler de ça avec son enfant. On peut pas demander aux gens de le faire coûte que coûte, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui gravitent autour des parents pour les aider à aborder ces sujets-là, je crois. Et quand tu posais la question par rapport à quelle incidence ça a eu, ce manque d'éducation à la sexualité-là, je dis toujours éducation à la sexualité au lieu d'éducation sexuelle. C'est plus long, je le sais. C'est juste que je me le suis fait fortement recommander parce que éducation sexuelle est plus connotée, ça fait plus « je vais te montrer à faire du sexe ». Donc, voilà. En fait, on a un cours en sexologie qui traite des ITSS, en fait. Et moi, ça m'a choquée de voir les graphiques de la montée des ITSS depuis la fin des années 90 chez les 14-25 ans. Parce que la population qui transmet le plus d'ITSS au Québec, ce sont les 14-25 ans. Parce qu'on ne l'aura pas... Puis, tu sais, ça va plus loin que de juste apprendre comment utiliser un préservatif pour moi. C'est apprendre aussi à, si l'autre personne n'a pas le goût de l'utiliser, le préservatif, comment tu vas réagir? Comment tu vas apprendre à négocier ta sexualité? Comment tu vas devenir un agent de ta sexualité plutôt que d'attendre que ça se produise puis de faire avec ce que tu as? Comment tu vas adopter aussi des... comment tu vas connaître les différents moyens de contraception qui existent. On ne peut pas juste parler du condom. Il n'y a pas juste le condom puis la pilule. T'sais, les jeunes, ils connaissent juste ça. Il y a le condom puis la pilule puis des fois le stérilet. Mais il y a tout un tas d'autres méthodes, hormonales ou non, qui existent. Il y a toutes sortes de centres qui peuvent te donner des formations à ce propos-là, mais c'est tellement peu connu et c'est de ça que moi, j'essaie de parler avec les jeunes. C'est de toutes les choses qu'on ne leur apprend pas dans le programme d'éducation sexuelle de base. Et ouais.
La notion de consentement, parce que quand on regarde qui fait le plus grand nombre d'agressions sexuelles, c'est dans ces âges-là aussi, et c'est des jeunes hommes. Donc, il y a vraiment un problème là à éradiquer, là, parce que c'est très grave, donc on ne leur en parle pas assez. Donc, tout ce que tu dis, oui, il y a un parallèle encore plus grave quand on se rend compte que le taux d'agression sexuelle est comme énorme. Au Québec, c'est quand même énorme là, ce qu'on a. Là, comme... Donc, voilà.
Merci beaucoup. La discussion tire à sa fin. Je voulais juste vérifier, la question de Pascal s'adressait également à Sarah. Est-ce que tu avais envie de... Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur le tag de l'auteur sexuel?
J'ai adoré la réponse de Catherine, mais je peux renchérir.
Je pense pas que c'est possible d'aller au bout de cette question-là, à part si on en fait des... J'essaie de ne pas faire des pièces à thème. Là, j'ai parlé de... J'ai eu une commande sur la cyberpornographie. Bon, c'est ça, mais sinon, je pense que la sexualité... Je me range beaucoup du côté de ce que Catherine disait en disant que ça fait partie de la vie. Pour moi, c'est tellement riche de décrire un personnage qui parle de sa sexualité ou de son rapport à l'autre. Ça parle de son rapport au monde. Ça parle de comment il est. En plus, c'est théâtral, c'est merveilleux. C'est comme une source de poésie puis de plein d'affaires. Fait que je pense que ça va... En tout cas, souvent, quand j'invente une histoire ou quand j'invente des humains, comme je disais, ça vient nourrir ça. Puis ça fait partie instinctivement de ce que j'ai envie de raconter sur ces personnes-là. Fait que je pense pas que je suis taguée. En tout cas, je pense que les gens doivent se dire qu'elle est capable de parler de ça. Tu sais, elle peut le faire. Puis je pense pas que je vais en venir à bout parce que c'est ça. C'est comme un sujet infini et tellement riche d'un point de vue humain. Voilà.
Et puis, il y avait une personne qui avait une intervention, une question. Est-ce que c'est encore... est-ce que vous aimeriez...
toujours susciter ces espèces de...
tollé là, parce que c'est des émotions qui sont tellement profondes qu'on ne veut tellement pas dealer avec, que c'est sûr que ça crée des réactions parfois disproportionnées par rapport à des sujets que vous touchez qui sont super sensibles. Ça a fleur de peau.
Tout à fait, je suis d'accord.
Bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été si nombreux, si attentifs. Je remercie Sarah Bertium, Florence Bonneau, Myriam Naguzan-Bernier ainsi que Catherine Chabot. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Radio Spirale.